Kaolin FM, l'invité du morning.
Et pour accueillir notre invité ce matin, on aurait pu se la jouer au yo-yo, gentle dame et dame oiseau. On va se la faire plus sobre et un simple bonjour, Luc Arbogast. Merci d'être avec nous.
Eh bien, bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup de cette présence ce matin. Alors, la question traditionnelle avant de parler de l'album Odysseus, avant de parler de cette tournée qui est en cours, le matin traditionnel de Luc Arbogast, il ressemble à quoi quand on n'est pas à la radio pour faire un peu de promo?
Oh, ben, je me lève tôt, je profite de mon jardin, je me fais un petit déjeuner avec le régime qu'on appelle le régime crétois. À base de pain, de charcuterie, ce genre de choses. Ensuite, je vais me promener. Et puis, j'écoute beaucoup de musique classique le matin au petit déjeuner. C'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, c'est un matin assez traditionnel avant de me mettre au travail sur la composition et le chant.
Il y avait du boulot parce qu'on parlera de projet tout à l'heure. Il y a déjà plein de choses sur le feu. Alors, vous êtes natif de La Rochelle. On va parler de cet univers musical qui est le vôtre. On est dans la musique médiévale. Hein. On vous a, le grand public en tout cas, découvert par le biais de The Voice avec cette apparence très particulière, cet univers musical qui est le vôtre. Mais avant la musique, c'était plutôt le théâtre, d'après ce que j'ai cru comprendre. Cette première révélation, ça s'est passé plutôt sur les planches en premier lieu.
J'ai eu la chance de participer dans le cadre scolaire à pas mal de petites pièces de théâtre, en fait. Et puis, plus tardivement, j'ai pris des cours de théâtre et d'expression corporelle. J'ai travaillé ces cours d'expression avec d'excellents profs. J'ai jamais eu de prétention de jeu d'acteur, mais voilà, ça m'a permis quand même de découvrir l'univers du spectacle. Il doit rester quelque part dans le monde des vidéos, d'un son et lumière auquel j'ai participé quand j'avais 12 ans. Et puis un peu plus tard, le théâtre universitaire, la salle du Cube Noir à Strasbourg, voilà, Don Juan, ce genre de choses, quoi. Oui, j'ai pratiqué ça.
Et avec rapidement cet univers médiéval qui a commencé à arriver bien avant de s'intéresser à la musique traditionnelle.
En fait, la réalité, c'est que l'univers médiéval m'a attrapé quand j'étais très petit, par la suite de cours d'histoire. Voilà, peut-être que j'ai regardé des épisodes de Thierry Lafronde avec Jean-Claude Drouot, que ça m'a marqué, quelque chose comme ça. Plus sincèrement, j'aime vraiment beaucoup les vieilles pierres, les sites historiques et tout ce qui touche à l'époque médiévale, parce que c'est quand même 1000 ans d'histoire et qu'aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'on est dans une époque un peu rapide, un peu superficielle, chose qui ne se présente pas sur l'époque médiévale, du moins dans mon ressenti.
Alors c'est vrai qu'on a un décalage quand on voit votre look. Là, on n'a pas l'image, mais on vous connaît bien maintenant. Vous êtes tatoué. Et la musique, d'ailleurs, était au départ un décalage total avec ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous étiez plus dans un esprit plutôt punk, plutôt rock, plutôt metal.
Bah, je suis passé, comme beaucoup de jeunes gens de mon époque, par la case punk revendicative, encore une fois assez innocemment, par le metal, le heavy metal. Et tout ce qui allait avec, c'est vrai qu'après je me suis retrouvé cracheur de feu, voilà, mais c'était toujours
fait beaucoup de choses, hein.
Oui, j'ai une vie très chargée parce qu'en fait je sais improviser en fonction des forces en présence et j'ai toujours eu confiance en ma bonne étoile. Le proviseur du lycée me demandait ce que je voulais faire comme boulot et je lui ai dit je voudrais être animateur. Il m'a dit mais c'est pas un métier. Je lui ai dit mais si je veux être animateur. Aujourd'hui je suis animateur.
Voilà. Voilà. Vous avez fait mannequin aussi, un peu poète, hein, vous avez beaucoup écrit. L'écrit c'était important aussi.
Alors j'écris encore en fait les textes que j'écris aujourd'hui, je les écris toujours de ma plume. J'écris des contes pour enfants. Voilà, je raconte une histoire par jour, un petit peu comme Henri Gougaud. Voilà, sur des petites morales où les animaux interviennent beaucoup. Encore une fois, on est parfois dans le bestiaire médiéval aussi. Je fais de l'illustration, j'ai effectivement craché du feu, j'étais mannequin, c'est vrai, j'ai fait tout ça.
Le but pour vous, c'est vraiment de vivre le moment présent. Avant tout, c'est ce qui est le plus important.
Vivre le moment présent, évidemment, c'est la base de tout, en réalité. Ça permet, en fait, aux gens d'assumer totalement ce qu'ils sont. Le but étant d'abord, et en finalité, d'aller au fond de ce que je suis moi-même. En fait, en réalité, je crois que tout le monde devrait prendre le temps de s'écouter. Un jour, je me suis posé la question de savoir s'il me restait quelques jours à vivre, ce que j'en ferais. Et voilà, les solutions qui me sont venues étaient loin de ce que les gens font. Hein, j'ai eu envie de prendre des risques et j'ai eu envie d'aller plus profondément, d'assumer plus ce que j'étais.
Hein, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut se conformer finalement au modèle qu'on nous montre un peu partout. Et vous, votre volonté, c'est justement de dire non, je m'écoute moi-même et je vais dans la voie qui me paraît me ressembler le plus en tout cas.
C'est exactement ça, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui se conforment et ça leur ressemble vraiment. Donc c'est vrai que, à la limite, pourquoi pas. Moi, je pense qu'on a toujours eu dans toute civilisation, on a eu des gens qu'on considère comme des déviants. Et au bout de quelques années, on se rend compte qu'en fait, non seulement ils sont déviants, mais c'est souvent des gens qui prennent des risques avant les autres. Je sais que, par exemple, ce tempérament de premier de cordée où, par exemple, en marchant en forêt, je vais signaler le caillou qui est sur la route pour éviter que les autres se le prennent. Donc voilà, j'ai pas la prétention d'être un guide, loin de moi cette idée, mais voilà, je prends plus de risques que les gens de la moyenne. Et c'est vrai que du coup, ma vie est assez chargée, ce qui donne finalement pas mal d'inspiration.
Oui, puis on verra que même si on est tous très, très formatés, le succès de votre album, par exemple, prouve qu'on a aussi envie de voir des choses un petit peu différentes.
Je pense qu'on a besoin de sincérité.
Alors, votre révélation, vous, c'est quand vous avez découvert vos capacités vocales, qui sont assez impressionnantes. Vous allez du très grave au très aigu. Comment ça s'est passé? Comment on découvre son potentiel comme ça?
L'anecdote qui concerne ma voix, en fait, il faut comprendre que j'étais petit enfant, j'étais chanteur à la Croix de Nice, à La Rochelle.
On a un petit peu de mal à le croire, là. Oui, aujourd'hui, le visuel est assez impressionnant.
Blondiné, le nez en trompette et une tête de petit prince. Et bon, voilà, les années passent. Et voilà, donc j'étais choriste, en fait, dans une chorale avec mes frères, voilà, et ma sœur. Et le temps a passé. C'est vrai que j'ai redécouvert ma voix de soprane, mais un petit peu par accident. J'ai emprunté une mandoline à une copine qui était une mandoline qui était accrochée comme ça sur un truc, et je l'ai prise, je l'ai accordée, j'ai chanté, et la voix est sortie comme ça. Et les gens qui m'entouraient ont trouvé ça très fort d'un point de vue émotionnel. Du coup, j'ai gardé cette envie. Et puis, ma voix, la voix s'est améliorée avec le temps. Et le travail, là aujourd'hui, je suis étendu sur 5 octaves, 1 quart. Ça me surprend moi-même tous les jours.
Ça évolue encore aujourd'hui ?
Ça évolue, oui, ça évolue toujours. Mais voilà, donc je descends du baryton jusqu'à la voix de contre-ténor. Et en fait, le truc, c'est que c'est bien d'avoir 5 octaves, encore faut-il que la voix soit agréable à entendre et puis qu'on ait quelque chose de pur à dire.
On n'est pas dans la performance avant tout.
Non, c'est vrai que je me surprends, le 21 février, on a joué à l'Olympia, j'ai atteint des notes contre fa, contre la, j'étais vraiment surpris, mais c'est pas le but du tout, je suis pas un coureur de fond, je suis pas non plus un sprinter, moi ce qui m'intéresse c'est la poésie, la magie des choses, l'émotion, et de savoir que le public le reçoit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base de tout, quoi. L'artiste qui fait de la performance quelque part... Il se retrouve toujours tout seul un jour ou l'autre, quoi.
Ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous avez arpenté les rues, puisque c'est là que vous avez commencé à jouer. C'est important, cette expérience de rue, justement, pour aborder aujourd'hui la carrière médiatique que vous connaissez. C'est des bases vraiment solides qui font qu'on vit les choses sereinement.
L'école de la rue, c'est l'école la plus difficile qui soit. Sous-entendu, il faut savoir improviser très rapidement avec les forces en présence, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a des conditions météorologiques extrêmes. J'ai joué à moins 17 à Strasbourg et à plus 35 à Avignon. J'ai été fidèle au poste. Et puis, je me suis dit, si on arrive à conquérir le public dans la rue avec de la simple musique, c'est déjà un point fort, quoi. Parce que faire s'arrêter les gens dans la rue, c'est pas facile. Je connais des gens qui galèrent beaucoup. Et je dirais, le dépassement de soi, la constance... Et la confiance en soi, quoi. Une fois que tu as acquis ça pendant 18 ans, je pense que tu peux aller sur un plateau de télé en te disant que de toute façon, même si ça marche pas, ta conviction, elle est faite. Hein, c'est ça, en fait, tu n'as rien à prouver. Ouais, t'étais là, en fait, tu vas juste te dire, regardez ce que je fais. Je fais ça, en fait. Vous aimez bien? C'est super. Si vous aimez pas, tant pis, c'est pas grave, je continuerai à le faire quand même pour les autres. Donc c'est ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand je suis passé dans l'émission, j'étais très heureux de voir que le public adhérait de la même manière qu'en spectacle de rue, mais tout simplement dans leur salon, quoi.
Avec vraiment tous les publics hein, qui vous rejoignent, on va vraiment des plus jeunes aux plus anciens, avec tous les univers musicaux qui sont représentés dans votre public.
Toute classe sociale, toute ethnie, tout baptême et toute nationalité, c'est totalement, c'est de l'humain, hein, y a vraiment une part d'humanité simple là-dedans, c'est... pour citer Lavilliers, la musique est un cri qui vient de l'intérieur, ça colle bien. C'est une musique qui est internationale, qui est sans frontières et qui parle à l'inconscient, je l'espère.
Alors avant de marquer une pause et de parler de l'album Odysseus dans un instant, précisons qu'avant Odysseus et avant The Voice, il y a eu donc 20 années avec 5 albums, je crois, et il y a eu aussi un collectif, le collectif Centaure, que vous avez monté en 2010.
Alors le collectif Centaure, en fait, c'est un collectif qui existe encore aujourd'hui, qui est un collectif dont l'anagramme, c'est le collectif d'expression néo-théâtrale pour l'animation urbaine et le retour à l'esprit du spectacle. En gros, c'est une bande d'artistes en fait, qui débarquent à un endroit et qui font le spectacle en fait, pour faire rêver les gens. Ça peut être du travail de feu, en jonglerie de feu, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être beaucoup de choses. Et je suis responsable de ce collectif depuis 5 ans maintenant. Et la date du week-end dernier était effectivement produite par Centaure à l'abbaye de Solignac.
On va marquer une petite pause en musique, évidemment avec un extrait de l'album Odysseus, évidemment. Je vous laisse le choisir et nous dire pourquoi ce titre-là.
Ah ben, bah, alors si on me laisse le choix, j'aimerais vraiment entendre le morceau Le Grand Coureur, parce que c'est un morceau qui a été réinterprété sur un morceau de Michael Yaouank, qui est à mon avis très dansant, très porteur, où les différentes voix sont présentes, donc la voix de baryton pour les couplets et les voix de contre-ténor pour les refrains. Le texte est absolument poignant et c'est pour ça que j'ai repris, et c'est un chant marin, et on est toujours agréablement surpris d'entendre des chants marins à la radio.
Alors Le Grand Coureur par Lucas Borgas, extrait de cet album Odysseus, et tout de suite on se retrouve juste après.
Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français.
Et retour avec notre invité ce matin, Luc Arbogast. On parle de cet album Odysseus dont nous venons d'écouter un extrait, Le Grand Coureur, et vous allez pouvoir en écouter un autre extrait d'ici quelques minutes pour terminer ce rendez-vous. L'album est sorti en août 2013 avec un très très joli succès, je crois, double disque de platine. C'est le sixième album. Comment on vit ça quand on a un peu autoproduit ses premiers albums et que là on se retrouve avec ce succès, alors télé oblige, mais succès phénoménal qui, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on vend des albums. Comment on vit les choses?
Bah on les vit bien, c'est simplement que voilà, je travaille beaucoup plus qu'avant, j'ai beaucoup plus de rencontres avec le public, mais en même temps, comme c'est un vrai plaisir, du coup, c'est pas pénalisant. C'est vrai que Odysseus a été promu double disque de platine, il était disque de platine au bout de 3 semaines. Ça nous a tous surpris, mais en réalité, pas tant que ça, parce qu'on avait quand même confiance dans le fait que cette musique avait quelque chose de particulier, et le public a adhéré. Je crois vraiment que les gens ont besoin de rêve, et cette musique avait pour but de les faire rêver. Voilà, j'ai les albums précédents, je laisserai au plaisir du public les découvrir en allant simplement sur mon site internet, quoi. Voilà.
Et ce sixième là, il est quoi? Il est complémentaire, il est différent, il est dans la continuité des précédents?
C'est la suite logique, en fait. Voilà, il est de la même veine. Le travail que je faisais avant était exactement de la même veine. Simplement, Odysseus a été produit par le label Universal Mercury, donc qui je travaille avec beaucoup beaucoup de plaisir, et j'ai une équipe formidable sur la réalisation, donc Christophe Voisin, réalisateur artistique. Et voilà, on pourrait dire que c'est un rêve qui se réalise, mais je pense que le meilleur est à venir, en fait.
Ça a été facile de travailler justement avec une grosse major. Quand on autoproduit, on fait ce qu'on veut. On a tendance à se dire, oula, quand on arrive dans une grande maison de disques comme Universal, on va forcément nous demander de faire des choses un petit peu formatées, grand public. Est-ce que ça a été comme ça, ou est-ce que vous avez eu le champ vraiment libre pour travailler sur cet album-là?
En fait, j'ai eu le champ libre, mais on m'a donné des conseils, évidemment, parce que moi, j'avais des idées un petit peu arrêtées sur certaines choses. J'ai été paisiblement guidé avec des choix qui sont aujourd'hui des choix stratégiques vraiment intéressants. C'est vrai que moi j'aurais tendance à mettre certains morceaux qui aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés à l'oreille du grand public, ou des textes peut-être un petit peu historiques qui seraient peut-être malvenus dans la conjoncture actuelle au niveau politique. C'est une musique sans frontières, comme je le rappelais. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai été très bien guidé, et aujourd'hui, à la réécoute de l'album Odysseus, que j'avoue écouter de temps en temps, ainsi que les autres anciens albums, pour avoir une critique objective, je suis tout à fait content de ce que j'ai fait là. Puis voilà, je suis en travail actuellement sur un nouvel opus qui sortira au mois d'octobre. J'ai encore des choses à dire, hein. Enfin, plein.
Puisqu'on ne peut pas faire sur certains albums dans une grande major, on peut les faire sur scène, on peut les faire dans la rue, puisque vous n'avez pas abandonné la rue pour autant. Mm-hmm. Cet album, c'est plutôt des chants, hein, on va dire, que de la chanson traditionnelle comme on l'écoute beaucoup. Ça veut dire qu'on se laisse plutôt porter quand on l'écoute, on comprend pas forcément tout ce qui y est dit. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quels sont les grands thèmes que porte Odysseus?
Odysseus, comme les deux précédents albums, Aux Portes de Sananda et Canticum in Terra, alors je suis désolé pour les gens qui ne comprennent pas le latin, ça peut être imprononçable. Odysseus traite beaucoup, en fait, de la mélancolie, du voyage, de la solitude, de la foi. Il y a toujours cette part de mystique, en fait, hein, ce rapport à l'humain, ce rapport à la nature, ce rapport à l'animal. Tout ce qui faisait la foi à l'époque médiévale, pas la foi forcément religieuse, mais la foi en quelque chose. Et les 4 thèmes principaux qui reviennent souvent dans l'histoire médiévale, c'est effectivement donc la foi, la mort, l'amour et la guerre, souvent. Alors on se retrouve sur ces thèmes-là, voilà, mais c'était pas forcément très joyeux. Hein. Mais au milieu de tout ça, hein, comme on dit, les roses poussent bien sur le fumier. Sur ces histoires très tristes et mélancoliques de l'époque médiévale, il y a des grandes joies, des joies immenses, et puis des naissances et tout ce qui fait le bonheur, quoi.
Et avec des instruments particuliers également dans cet album. On vous a vu évidemment dans The Voice avec, il y a du bouzouki, il y a de la mandole, il y a le sitol, il y a l'oud. C'est des instruments très particuliers. Ils sont indissociables de cette musique et de votre musique. Pour vous, ça ne s'accorderait pas avec forcément des instruments traditionnels, entre guillemets?
Alors on peut toujours les interpréter avec des instruments traditionnels, enfin des instruments contemporains. Mais c'est vrai que pour bien remplir sa mission, il faut avoir des bons outils. Je pense qu'un cuisinier, un bon cuisinier doit avoir sa propre cuillère en bois, je crois.
Et donc partant de cette de couteaux.
Voilà, il a son matériel, quoi. Et c'est vrai que là, les instruments que j'ai choisis sont des instruments anciens. On a fait intervenir sur Odysseus des octures à cordes, un musicien qui joue un instrument qui s'appelle le shofar, qui est une espèce de trompe antique. Voilà, il y a du psaltérion, c'est des instruments savants, mais l'essentiel, encore une fois, c'était de servir au plus proche possible la musique traditionnelle.
Votre chouchou à vous, parmi toute cette gamme, tous ces instruments que vous pratiquez?
Ça reste la vielle à roue et le bouzouki irlandais, hein, c'est les deux instruments de prédilection. Le bouzouki irlandais parce que c'est ultra porteur pour le chant, puis la vielle à roue pour son caractère très médiéval, c'est un instrument à bourdon, c'est ce qu'on entend sur le grand coureur, justement, cette espèce d'instrument étrange. Là.
Et les grelots aussi, hein, sont indissociables de votre personnage aujourd'hui.
C'est ça, en fait, je les ai greffés.
Votre liberté aujourd'hui, vous la conservez malgré ce changement, cette évolution dans votre carrière, passer de la rue à cette scène médiatique?
J'ai la sensation d'avoir encore, comme je disais, des choses à dire et puis des projets. Simplement, maintenant, le fait de jouer dans la rue, c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'avant, je faisais des journées de 11 à 12 heures. Avec des pauses de 20 minutes, et puis je reprenais, et puis j'allais boire un verre avec des gens, et puis je rencontrais énormément de monde. Et aujourd'hui, si tu veux, cette spontanéité inhérente à la rue est un peu tronquée, parce que quand je fais un spectacle maintenant, voilà, je fais deux morceaux, et puis alors je fais des photos, je fais des dédicaces. Et voilà, on a un petit peu perdu ce côté-là. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, il fallait bien qu'il y ait une médaille. Un revers à la médaille. Hein.
Pour terminer, musicalement, en dehors de cet univers très particulier, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous écoutez? On l'a dit, c'est visiblement très. La palette est très large.
En fait, j'écoute absolument de tout. Alors, moi, quand j'entends un artiste dire ça, je me dis, oh, il n'a pas de caractère.
Mais j'ai fait pareil.
En fait, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de musique classique, du chant grégorien. J'écoute du jazz. J'écoute de la musique électro. J'écoute aussi du heavy metal. J'écoute des musiques de relaxation, les bols tibétains, ce genre de trucs. En fait, en gros, j'écoute tout ce qui est fait avec sincérité. Voilà. Je sais déceler quand une musique a été faite pour l'ego ou si elle a été faite par l'âme.
Et justement, puisqu'on parlait de The Voice qui est censé révéler des nouveaux talents, s'il y a un nouveau talent, par exemple, un artiste français qui vous a un peu tapé dans l'œil, où vous dites, ça c'est un artiste au sens noble du terme.
Sur The Voice, moi j'ai trouvé, effectivement, j'avais conseillé à Leïla en fait, de passer dans cette émission. Je trouve qu'elle a très bien fait, c'est une artiste, une grande artiste. Et puis j'ai eu, effectivement, je suis très content parce que Kenji a gagné cette saison. J'avais justement un coup de foudre pour Kenji et puis pour Maximilien aussi. Voilà, c'est vraiment deux gars que je trouve qui ont des choses à dire, quoi. Tu vois, ils ont un bagage, ils ont une histoire, c'est un peu des écorchés vifs.
Et des univers aussi particuliers, bien à eux.
Et voilà, c'est ça. On est loin du caractère policé. Là, on est dans une vraie dimension de. C'est des artistes, quoi. C'est pas des mecs qui font l'artiste. En fait, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Il y a des gens qui sont artistes et ceux qui font les artistes. C'est ça la différence.
Et les vrais artistes, il en reste encore aujourd'hui, fort heureusement.
Les artistes, ils ne se posent pas la question.
En tout cas, on rappelle, vous, le succès phénoménal de cet album Odysseus, qu'on trouve donc dans les bacs, en tournée en ce moment. Vous avez fait Bordeaux, je sais, vous avez fait Toulouse également. C'est un peu le marathon, ça va un peu se calmer. Mois de juin, on va pouvoir un peu souffler.
Ouais, je pense qu'on va se reposer un petit peu. Mais on a commencé la tournée par l'Olympia, quand même, qui est affiché complet. Et puis, j'avais dû annuler deux dates parce que j'ai fait une mauvaise chute à cheval il y a quelques semaines. Ça s'est remis, j'ai attaqué la tournée le 21 février. Donc voilà, on est un peu sur les chapeaux de rouge, je cache pas un petit état de fatigue, mais dès qu'il s'agit de faire plaisir au public, on est là et puis basta, quoi.
On oublie tout sur scène, et puis il y a ce nouvel album, hein, vous l'avez dit, ce sera a priori pour le mois d'octobre, ça veut dire que l'été, ce sera pas vraiment du repos, ce sera plutôt l'enregistrement de cet album.
Ouais, c'est ça. On a des surprises, je pense que ça devrait être apprécié du public.
On aura l'occasion de le découvrir. Le Kerbogas, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Kaolin ce matin, et on vous souhaite une très très belle tournée, un joli succès pour tout ce qui vient pour vous.
Eh bien merci, c'était Lucas Bogas sur KOL1 FM.
Fais ça très bien, à bientôt.
Salut.